95.7 Kick Saguenay. C'est midi pile.
À 11h45, vous commencez à connaître votre moineau. Vous connaissez un peu mes habitudes. J'aime bien rigoler. J'aime bien être dans le second degré, tout ce qui va autour. Mais n'empêche que j'ai aussi un volet qui est très, très, très humain. Et parfois, le volet humain de la vie n'est pas toujours le plus resplendissant. La COVID a peut-être amené des opportunités à des entrepreneurs de se trouver un nouveau créneau. Mais ça a aussi fermé des entreprises. La COVID a peut-être permis à du temps, permis à des familles d'être plus proches parce que finalement, ça les a fait débarquer de leur horaire de fou. Puis pendant une couple de mois, pendant qu'il y a eu un peu les gens où étaient à la maison, ça les a permis de prendre du temps avec leurs familles. Mais ça a aussi éloigné des gens. Il y a des gens qui n'ont plus de réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont plus de contact humain. Il y a des gens qui, au jour le jour, avaient un petit nuage noir au-dessus de leur tête. Et ce nuage noir-là est devenu un orage. Bref, au bout de la ligne, il y a plein de comportements humains qui ont peut-être été appelés à changer ou amplifier. Est-ce qu'on peut conjuguer suicide et COVID dans la même phrase? Peut-être pas de manière systématique, mais peut-être que oui aussi. Sur quelques semaines, c'est impossible. Sur quelques mois, on commence à avoir un peu plus de données sur l'impact de la COVID en temps de pandémie. Et il y avait un excellent texte qui est paru il y a un certain temps qui s'appelait « Prévention du suicide, l'autre courbe à aplanir ». Un excellent texte qui a été écrit par Cécile Bardon, qui est professeure, directrice associée au Centre de recherche et intervention sur le suicide, entre autres à l'Université du Québec à Montréal. Madame Bardon est au bout du fil. Bonjour, madame.
Bonjour.
Est-ce que dès le début de la COVID, quand on a pris connaissance de l'ampleur de ce phénomène mondial-là, est-ce que vous, Mme Bardon, qui est une spécialiste dans le comportement humain dans ce genre-là, sachiez qu'on allait avoir peut-être des signes de détresse en lien avec ça?
Oui, ça c'est clair que pour ce qui est de la détresse, on s'attendait à ce qu'il y ait, une augmentation de la détresse chez les gens. Comme vous l'avez dit, liée à l'anxiété, liée à aux pertes d'emploi, à l'insécurité, au fait de ne pas savoir où on s'en allait, de ne pas savoir ce qui allait se passer, de se retrouver d'un seul coup isolé de son réseau, isolé de ses services de soins aussi. Il y a beaucoup de gens dont les traitements psychothérapeutiques, par exemple, se sont interrompus à cause de la distanciation, puis à cause de du confinement. Donc oui, on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation de la détresse. Maintenant, est-ce que cette augmentation de la détresse se reflète de façon directe dans l'augmentation de comportements suicidaires? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à
observer. Parce que lorsqu'on fait, vous savez, que ce soit l'humain en général ou le journaliste moyen, puis je peux m'inclure là-dedans, de vouloir faire un raccourci direct entre COVID et suicide, c'est probablement pas une bonne chose. Ça peut être peut-être un facteur, mais est-ce qu'il y a des causes à effet direct? J'en doute.
Oui, vous avez raison, il n'y a pas de cause à effet direct. C'est comme pour toutes les choses, quand on parle du suicide, on dit que c'est extrêmement multidéterminé, multifactoriel. Il n'y a jamais un élément unique qui va faire que quelqu'un va penser au suicide ou va se suicider. C'est toujours une combinaison de facteurs multiples et le COVID peut faire partie de cette combinaison. Puis, comme vous le disiez tantôt, il peut en faire partie d'une manière négative en isolant les gens, mais aussi d'une manière positive en faisant en sorte que des gens se retrouvent plus en famille et sont plus en contact avec des gens qu'ils aiment, par exemple, quand ils sont restés confinés à la maison avec leurs proches. Donc, c'est jamais blanc et noir et c'est toujours très compliqué la manière dont un événement comme le COVID qui se déploie dans le temps aussi, qui n'est pas un élément ponctuel, c'est toujours très compliqué de savoir comment ça va jouer sur des comportements aussi complexes que des comportements suicidaires.
Madame Bardon, vous amenez une étude qui est réalisée par des chercheurs de l'Université de Toronto qui prévoit, ça ne veut pas dire que c'est comptabilisé déjà, mais qui prévoit qu'il pourrait y avoir de 418 à 2114 suicides de plus au Canada en 2021 en raison de la COVID-19. Disons que si on se rend à 2000 quelques suicides de plus liés à la COVID, c'est beaucoup de gens.
C'est beaucoup de gens. Et je pense que ça, ce sont des modèles. Il faut se méfier et il faut savoir les interpréter, ces modèles-là. C'est-à-dire que c'est un modèle mathématique qui est fait à partir de tendances et de données, puis de ce qu'on sait de l'influence de certains facteurs, comme par exemple le chômage. On sait que plus le chômage augmente, plus le risque de suicide dans une société augmente. Maintenant, le lien, encore une fois, il n'est pas direct. Ça n'est pas le fait d'être au chômage qui fait que les gens se suicident. C'est une situation socio-économique globale qui se dégrade, qui vulnérabilise des personnes. Donc, quand on fait un lien direct comme ça, c'est pas évident, c'est toujours parcellaire. Et aussi, le chômage, par exemple, il va pas agir tout seul. Parce que, par exemple, au Canada, on a la chance d'avoir eu un gouvernement qui a plutôt bien géré ça d'un point de vue social, en mettant en place des mesures de soutien et de protection temporaires, peut-être incomplètes, peut-être partielles encore une fois, mais qui ont au moins permis d'alléger la pression que le confinement et le Covid mettaient sur les gens. Et que donc le chômage qui était provoqué par le fait que les entreprises étaient fermées temporairement, par exemple, avait sur les gens. Donc, il y a un effet social qui vient modérer l'impact du chômage. Donc, quand on dit qu'il peut y avoir une augmentation jusqu'à 2000 personnes du nombre de suicides, c'est si on fait rien pour mitiger finalement cet effet-là du chômage sur le bien-être des populations. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder uniquement directement. Il faut toujours l'interpréter dans un contexte plus large.
Vous avancez dans votre lettre ou dans votre article qu'il y a des communautés qui sont plus vulnérables. Alors, je vous pose la question suivante. Vous avancez que les communautés comme les Autochtones ou la communauté LGBT, Q+, et tout ça, seraient plus vulnérables. Est-ce que c'est parce qu'ils le sont déjà plus vulnérables et plus enclins au suicide déjà dans un contexte, entre parenthèses, normal?
Oui. C'est-à-dire que les vulnérabilités qui viennent avec certains groupes, ce sont des vulnérabilités, encore une fois, qui sont sociales. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes autochtone que vous êtes plus à risque de vous suicider. C'est parce que vous êtes autochtone dans une communauté ou dans une société qui rend la vie difficile pour vous comme autochtone, que le niveau de détresse est plus élevé et que donc le risque suicidaire est plus élevé. Si là-dessus on rajoute les difficultés supplémentaires dues à des choses comme la COVID, ben c'est sûr que sur des populations qui sont au départ déjà vulnérables, ça risque d'augmenter leur vulnérabilité.
Vous avez amené également un peu plus tard dans l'article, du moins, des statistiques et c'est pas qu'elles sont contradictoires, c'est peut-être un changement de temps ou un changement d'époque. C'est-à-dire que vous dites au Québec, il y a moins de gens qui se suicident, mais il y a plus de tentatives. Est-ce que pour vous, c'est paradoxal ou c'est juste un changement d'époque?
Non, c'est pas paradoxal. Il y a toujours eu... puis ça, c'est une excellente nouvelle. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Depuis une vingtaine d'années, les taux de décès par suicide au Québec baissent régulièrement. Donc ça, c'est en soi une très bonne nouvelle. Quand quelqu'un ne décède pas par suicide, c'est une personne auprès de qui on a la possibilité d'intervenir, puis on peut l'aider à améliorer son bien-être et sa qualité de vie et faire en sorte qu'elle cesse de penser au suicide et puis qu'elle aille mieux. Donc ça, c'est en soi une bonne nouvelle. Les tentatives de suicide, c'est un phénomène qui est un petit peu différent. On observe des variations importantes de ces choses-là. Et depuis quelques années, au Québec et dans d'autres régions du monde occidental, on note une augmentation du nombre de tentatives de suicide. Mais ça, quand on parle des tentatives de suicide dans ce contexte-là, c'est souvent les tentatives de suicide qui ont nécessité ou qui ont mené, en tout cas, à une intervention thérapeutique ou médicale. Donc, il y a une combinaison de plein de choses différentes. Il y a une augmentation de la détresse, il y a une augmentation des idéations suicidaires et des tentatives de suicide, mais il y a aussi une augmentation de la recherche d'aide qui fait qu'une grande partie de ces tentatives de suicide sont devenues visibles au système alors qu'elles n'étaient peut-être pas avant.
C'est intéressant, donc, Mme Bardon, comment vous tournez ça, parce que moi, je voyais ça d'un côté négatif, qu'il y ait plus de tentatives de suicide, mais vous dites, ou du moins ce que j'interprète, c'est qu'il y a moins de gens qui meurent par suicide, il y a effectivement plus de tentatives, mais au moins, ceux qui ne meurent pas, on va peut-être au moins pouvoir les rescaper, on va pouvoir les sauver. Et ça, c'est un élément positif dans la noirceur. Maintenant, il y a quand même un chiffre que j'essaie de... Je pense que c'est un gros chiffre, à vous de me le dire. Selon les dernières données qu'on a comptabilisées au Québec, en 2014-2015, 2,8% des Québécois, disons 3 pour la forme, 3% des Québécois avaient pensé s'enlever la vie de manière sérieuse. Est-ce que c'est un gros ou un petit chiffre?
C'est un chiffre qui est pas mal dans la norme de ce qu'on voit dans les pays qui nous ressemblent, dans les régions du monde qui nous ressemblent, c'est-à-dire plutôt occidentales, plutôt social-démocrates slash capitalistes, un peu dans les milieux dans lesquels on vit. ça ressemble pas mal. Puis ce sont des chiffres qui reflètent un niveau de détresse qui est quand même élevé dans la population. Des gens qui ont sérieusement pensé à se suicider, ce sont pas nécessairement des gens qui ont fait des passages à l'acte. Donc ce sont des gens pour qui l'idée du suicide a fait un petit bout de chemin dans leur esprit, puis dans leur mécanisme d'adaptation, puis dans leur façon d'appréhender les difficultés et la détresse qu'elles vivaient. On est pas mal dans la norme, je dirais, par rapport à ça.
Parce que Mme Bardon, je sais, et je le fais consciencieusement, vous allez détester la manière dont je vais formuler ça, mais je le fais pour la forme. Il y a quelques années, on véhiculait qu'au Québec, on était les champions du suicide.
Oh oui, non, c'est vrai, j'aime pas comment vous le dites.
Je sais, mais c'est voulu parce que souvent on a véhiculé ce terme-là. Ça voulait dire que le ratio de gens au Québec par rapport à la population qui suicidait était plus élevé qu'en Amérique du Nord. Est-ce que c'est toujours vrai?
Ça l'est de moins en moins, justement, parce que nos taux baissent beaucoup depuis une vingtaine d'années. Il y a eu énormément il y a une grosse prise de conscience qui a été faite, justement, parce que les taux étaient alarmants et comme vous disiez, on était les champions, même si c'est pas une bonne catégorie dans laquelle être champion, là. Mais donc du coup, il y a énormément d'investissements qui ont été faits en prévention du suicide, et ça fonctionne visiblement parce que on a réussi à faire baisser les taux et on les maintient de plus en plus bas. Surtout les taux chez les hommes, par exemple, qui étaient très 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 élevés et qui le sont de moins en moins.
C'est drôle parce que on parle des hommes, donc on a travaillé sur les hommes. Est-ce qu'on a laissé aller la détresse psychologique des femmes ou on a découvert la détresse psychologique des femmes?
C'est une bonne question. C'est une étrange façon de la formuler, je trouve. Parce que soit on l'a laissé aller, soit on l'a découverte. Je pense que la détresse psychologique chez les femmes, on l'a toujours connue. On a toujours su qu'elle était là. On l'a peut-être pas toujours comprise de la bonne façon. C'est sûr que... Un suicide, c'est un geste qui est tourné vers soi, mais qui est aussi tourné vers autrui, puis qui avait une tendance à être un petit peu plus masculin, entre guillemets, dans la perception qu'on avait, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui se suicident. Et donc, comme je disais tantôt, à partir du moment où quelqu'un est mort, on ne peut plus rien faire pour l'aider. Quand quelqu'un n'est pas mort, c'est là qu'on a l'opportunité de travailler. Et les femmes donne plus d'opportunités de ce type-là que beaucoup d'hommes.
Très intéressant. Est-ce que vous êtes du camp de ceux qui disent « parlons-en du suicide, parlons-en de la bonne manière, mais n'ayons pas peur d'en parler ».
Exactement. Le mot-clé ici, c'est « parlons-en de la bonne manière ». Parce que justement, je sais que c'était un petit peu de la provocation que vous avez faite, là, mais de dire qu'on est des champions, des choses comme ça, c'est pas forcément la bonne façon d'en parler.
Je connais votre métier, mais moi, malheureusement, le terme, non, je trouve pas ça positif du tout, madame, mais c'est un terme qui a été véhiculé. C'était une statistique.
Oui.
Là, si la statistique existait, on aura beau dire, on se comprend. Ceci étant dit, je veux qu'on revienne dans le positif.
Oui, oui.
Vous utilisez le terme prévention à moult reprises dans votre article. La clé est dans la prévention?
La clé est dans la prévention parce que à partir du moment où on soutient les gens avant qu'ils atteignent un niveau de détresse suffisant pour attenter à leur jour, ben c'est toujours mieux. Parce que c'est comme dans tout ce qu'on fait, c'est plus facile d'empêcher un problème d'apparaître que d'essayer de le régler une fois qu'il est là.
Est-ce que la prévention n'est qu'exclusivement gouvernementale ou la prévention devrait être sociale? Ce que je veux dire là-dedans, est-ce qu'on doit tout mettre dans la cour du gouvernement en disant « faites des annonces, faites des pubs, faites des programmes » ou la prévention, c'est aussi en tant qu'individu, dans une communauté, dans une société, de repérer quelqu'un qui ne va pas bien puis de faire un geste citoyen vers lui?
Tout à fait. La prévention, c'est une affaire de communauté, de société. On est tous responsables de faire de la prévention du suicide, que ce soit individuellement, en parlant à quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on se dit « cette personne-là va pas très bien aujourd'hui ». C'est correct de demander à quelqu'un qu'on connaît de dire « tiens, aujourd'hui, je trouve que t'as pas l'air bien. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Ça, c'est de la prévention. Et ça va de là... jusque à l'implication des organismes communautaires dans la santé mentale, dans le développement du bien-être, dans la mise en place de facteurs de protection, au repérage des personnes en difficulté, avec les programmes de sentinelles, par exemple, dans les milieux. Le réseau communautaire, puis dans votre région en particulier, est très fort et très, très présent dans la prévention du suicide.
Oui,
dans la prévention de la détresse.
Une très bonne relation avec le CPS 02 et tout ça.
Oui. Et le gouvernement a son rôle à jouer et les institutions ont leur rôle à jouer, que ce soit à travers des politiques nationales et des stratégies nationales qui permettent de mailler un petit peu tous ces efforts-là pour aller dans une même direction tous ensemble, qui est d'améliorer le bien-être des personnes, de repérer les personnes vulnérables, de s'assurer que le fait de se sentir mal n'est pas une source de stigmatisation, puis que quand ça va pas, on puisse le dire, on puisse être entendu quand on le dit, et que quelque chose puisse être fait pour nous aider à aller mieux.
Histoire de boucler la boucle et de faire une synthèse sur le débat initial, il n'y a pas personne, ou du moins très... En bref, les gens ne se suicideront pas à cause de la COVID-19, mais ça peut peut-être être un amplificateur ou peut-être un facteur de plus. Par contre, si vous êtes rendu au point à penser que la COVID est quelque chose qui va vous faire enlever la vie, il y a des ressources, il y a votre cercle social, il y a des numéros de téléphone, le fameux 1-866-277-3553, ce qu'on appelle communément, ou le 1-866-appelle-le, 2L avec un E à la fin. Ce sont des gens qui sont prêts à vous écouter, je pense 24/7, si je me trompe pas.
Oui, et donc c'est le métier d'entendre des choses que peut-être votre entourage ne se sent pas à l'aise d'entendre, parce que parler de la mort, c'est des fois des choses qui peuvent bouleverser nos proches. Ces gens-là sont prêts à l'entendre.
Ah oui, puis effectivement. Madame Bardon, merci beaucoup. C'était peut-être pas le... Écoutez, ici à Saguenay, je ne sais pas comment c'est dans votre coin, mais ici, il mouille à Sio. C'est peut-être un sujet gris, mais c'est un sujet dont il faut parler à l'occasion.
C'est un sujet dont il ne faut jamais hésiter de parler.
Effectivement. Je suis d'accord avec vous, Madame Bardon. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cécile Bardon, qui est professeure, entre autres, du côté de l'UQAM dans le secteur de Montréal, qui est spécialisée dans un département justement pour ce... On peut dire problématique, mais appelons ça une réalité. Et on le dira jamais assez. Si jamais vous avez des nuages un peu trop noirs au-dessus de vos têtes, le 1-866 appelle. Ce sont des gens spécialisés là-dedans. Si vous avez un cercle social ou des personnes de confiance qui peuvent servir d'oreilles attentives, tant mieux. C'est pas toujours possible, mais des fois ça existe. Puis tu sais, je le fais, puis je pourrais parler de plein d'autres affaires plus drôles aujourd'hui, puis je pense qu'une fois de temps en temps, c'est important de le faire, soit avec des spécialistes, parce que en l'espace de 8 ans, Tania, moi, ça fait 8 ans que je suis ici, puis ça fait 4 auditeurs que je perds par suicide. Puis je le sais. Puis ça, c'est 4 auditeurs que je connais, là.
Ouais, imagine,
il y en a 4 que c'était des gens par Facebook à qui que je correspondais, puis à un moment donné, ils m'ont jamais dit qu'ils s'enlevaient la vie. Mais j'en connais un, moi, qui m'a écrit pour me parler de tout et n'importe quoi, puis qui s'est enlevé la vie une couple de jours plus tard, un auditeur, puis ça fait « Ah, fuck, c'est poche! » Puis c'est poche parce que je voulais pas perdre cet auditeur-là ou cette connaissance-là, quelqu'un que j'avais rencontré à quelques reprises. Puis à chaque fois qu'il y a un auditeur qui s'enlève la vie ou qui meurt, mais il me paye pas, je trouve ça triste. Puis souvent, c'est des jeunes. Ceux que je connais, là, des deux jeunes hommes dans vingtaine qui se sont enlevés à vie, qui étaient des auditeurs, qui me parlaient une fois de temps en temps, qui m'envoyaient de l'information à gauche, à droite, sur tout et n'importe quoi. Puis à un moment donné, tu te dis, voyons, il est plus sur Facebook, lui. Puis à un moment donné, je vois passer sa, tu sais, la face de, tu sais, le signet mortuaire.
Ouais, je comprends. La vie de décès, là.
Puis à un moment donné, de contact en contact, t'apprends qu'il s'est enlevé à vie. Puis je trouve ça extrêmement triste. Alors, je vous adore. Puis si vous avez besoin de faire un move, ben faites le bon, le positif, c'est-à-dire d'appeler les ressources concernées.
95.7 Saguenay. On revient tout de suite après la pause. Midi Pile. Tous les jeudis dans le show du matin, Simon Tremblay de Midi Pile vous donne l'heure juste sur 3 faits de l'actualité. Parce que 1, c'est bien, 2, c'est mieux, 3, ça punch! 95.7 Kick. Vous allez en entendre parler.